Je vais donner la parole à Jean-Luc Senèze, donc qui est doctorant à l'université de Rouen, qui enseigne au lycée d'Yvetot et qui va nous présenter donc sa recherche en cours, en tout cas un élément, un segment d'avancée de votre travail de thèse. Voilà, vous avez la parole, Jean-Luc.
Bonjour à tous. Je fais une thèse avec une âme de trois sur la photographie et puis notamment sur la présence de l'objet photographié. Donc en 20 minutes, je ne vais pas vous présenter l'intégralité de mon projet de recherche, mais un point qui est en chantier, un point sur lequel je travaille en ce moment, une hypothèse qui consiste à essayer de mettre en relation l'horizon perceptif et le hors-champ et la prof-champ en photographie. Ça s'inscrit dans mon projet général qui consiste à essayer de ménager une place intermédiaire pour la photographie entre la représentation et la perception. Ma thèse consiste en fait à essayer de montrer qu'il y a, avec la photographie, une manière tout à fait spécifique de voir, qu'on pourrait appeler voir en photographie, qui se distingue de se représenter, ce qui est le cadre du fait que quand on regarde une image, on se représente, on considère une représentation. Alors, et dans la perception, nous percevons les choses mêmes. L'image comme le perçu a des limites, mais les limites de la perception ne sont pas les mêmes que celles de l'image. Un concept spécifique s'est constitué en phénoménologie pour montrer la structure des limites du perçu, c'est l'horizon. Et cette distinction entre les limites de l'image et l'horizon a servi d'argument majeur pour considérer la photographie comme une représentation. Que je vais essayer de refuser. La représentation se distingue de la perception, en effet, en ceci qu'elle se rapporte à une chose absente et en tient lieu. Dans la perception, en revanche, l'objet est présent en personne, s'il n'est jamais entièrement donné. Le mouvement d'approche peut en faire varier les aspects. Ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Husserl, une donation par esquisse. L'inachèvement de la synthèse perceptive est en effet ce qui constitue l'évidence sensible. Il s'agit d'une aspectualité ouverte, pour ainsi dire, par opposition à l'aspectualité fermée d'une représentation. Dans une représentation, le représentant y est bien présent, mais pas le représenté, car il s'agit d'une autre chose. Même s'il peut arriver par accident que le représentant et le représenté soient coprésents. Mais le premier, le représentant, reste tout à fait indépendant du second, dont la présence reste superflue. Cependant, je vais essayer de montrer que la photographie présente deux aspects qui tendent à se rapprocher de l'horizon, mais qui la distinguent de la représentation. C'est le hors-champ et la profondeur de champ. Ça se rapproche de l'horizon parce qu'il s'agit de limites qui ne sont pas vues comme des clôtures. Mais néanmoins, comme dans une image, dans une photographie, donc quand on voit quelque chose en photographie, eh bien on ne peut pas l'explorer, on ne peut pas. L'aspectualité paraît limitée. Il y a des limites que l'on ne peut pas dépasser. Mais ces limites ne sont pas vues comme des clôtures. Donc, dans un premier moment, je vais essayer de distinguer donc le hors-champ et la profondeur de champ de l'horizon, notamment de l'horizon externe et de l'horizon interne, pour ensuite, dans un deuxième moment, néanmoins, essayer de distinguer le hors-champ et la profondeur de champ des limites propres à une image. Une photographie est sans horizon. Ainsi, le hors-champ, ne peut pas être identifié à ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Husserl, un horizon externe. En photographie, ce qui nous affecte est aussi connu d'avance sous la forme d'un horizon vide de détermination, comme l'horizon husserlien, mais il n'est pas le corollaire d'un horizon vide ouvert d'explications à confirmer. Je cite Husserl. Le hors-champ se distingue radicalement de l'horizon perspectif en ce que toute exploration est immédiatement vécue comme impossible, barrée par les limites du cadrage. Pour le spectateur d'une photographie, le hors-champ est lieu où il ne peut pas aller voir. Il s'agit d'une privation de liberté. Le hors-champ n'est pas ce qui se trouve hors du champ. Il ne s'agit pas de faire référence à ce qui se trouve hors du champ, mais c'est le mouvement par lequel le visible paraît plus ou moins s'échapper hors de l'espace où il nous est possible de le suivre. La photographie a un hors-champ et non un cadre. Il faut ici distinguer le cadre du cadrage. Une photographie opère un cadrage, mais n'a pas de cadre. Ce qui se montre en photographie est ouvert sur ce que l'on ne voit pas, ce qu'il y a au-delà, même si il n'est pas possible au spectateur de la photographie d'aller y voir. L'évidence photographique pourrait se définir ainsi, par opposition et par distinction avec l'évidence perceptive, l'éloignement de ce qui est vu, qui est désigné proprement par le terme de visible, et la pure possibilité d'être vu. En photographie. Qu'est-ce que c'est qu'une pure possibilité d'être vu? Eh bien, c'est qu'il y a à voir sans que je puisse aller y voir. Ce n'est pas parce que je ne peux pas aller y voir, c'est pas parce que je ne peux pas aller voir au-delà de ce qui se montre qu'il n'y a rien à voir. Comme dans l'image, je ne peux pas aller voir parce qu'il n'y a rien à voir. L'image a des limites et ces limites sont cadrées. Il y a un cadre, il n'y a rien à voir au-delà. Il n'y a pas d'horizon externe, mais il n'y a au-delà, il n'y a rien. Alors que le hors-champ, c'est une zone d'échappement où le spectateur ne peut pas aller y voir, mais où il y a quelque chose à voir. Ou plutôt, il y a à voir, car nous verrons que ce qu'il y a à voir n'est pas une chose. Alors, on pourrait objecter que cette idée d'une possibilité pure qui jamais ne se réalise n'est qu'une impossibilité refusée au profit d'un au-delà de ce qui donnait réellement à voir. Qu'est-ce que serait cette... Il y a à voir, mais que personne ne peut aller voir. N'est-ce pas, serait-ce pas un pur fantasme? Quelle est la réalité de cet au-delà qu'il y a dans le hors-champ? Eh bien, cet au-delà est attesté par la curiosité, par le désir. Le désir de ne pas s'en tenir à ce qui y est vu. En ce sens, le spectateur d'une photographie peut ressentir ce qu'il éprouverait devant une sculpture, l'aspiration à faire le tour, sans pouvoir néanmoins effectuer le moindre mouvement d'approche. Le refus d'accepter la spécificité du hors-champ et de la visibilité de ce que le spectateur n'est pas capable de voir se fonde sur une évidence qui ne relève pas du tout de l'expérience de celui qui regarde la photographie. Il s'agirait à chaque fois de rabattre ce que l'on voit sur son support matériel. Il n'y a rien d'autre à voir que ce qui est donné à voir, car ceci n'est qu'une représentation en deux dimensions, d'une réalité absente. Cette objection s'adosse sur l'usage ambigu du terme d'image, qui à la fois désigne le support matériel, mais aussi ce qui est donné à voir d'image. Si on veut être fidèle à ce que l'on voit quand on regarde une photographie, il est nécessaire de distinguer leur champ à la fois de l'horizon perceptif externe et de l'au-delà du cadre de l'image. En ce qui concerne la profondeur de champ, alors en photographie, qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? Eh bien, en ouvrant plus ou moins le diaphragme de l'objectif, on fait varier la profondeur de champ. Ainsi, une grande ouverture diaphragme impliquera une faible profondeur de champ. Dans une petite ouverture du diaphragme, au contraire, va produire une grande profondeur de champ. Dans une faible profondeur de champ, apparaîtront sur la photographie ce qu'on pourrait appeler un flou, et notamment, ça apparaît bien dans les portraits, où c'est le flou de l'arrière-plan, ce que l'on appelle en technique de photographie le bokeh. Le bokeh, c'est un mot d'origine japonaise qui signifie flou. C'est un moyen notamment de faire ressortir le sujet, un détail de premier plan. Ça permet aussi de produire des gros plans impressionnants. Cela sculpte, pour ainsi dire, l'image en faisant jaillir un élément sur le fond. En photographie, le flou d'arrière-plan ainsi devient visible, ce qui n'est jamais le cas en perception. On ne voit pas le flou en perception. Le flou n'est jamais perçu. C'est-à-dire, on va dire, je vois mal. Voir le flou, ça va donner justement un indice d'irréalité. En floutant quelque chose, et on pourrait parler d'un flou artistique, le flou est utilisé. Être utilisé ici par la photographie justement pour ressembler à une image. C'était le cas de l'école pictorialiste qui voulait justement refuser la netteté pour faire en sorte que la photographie ressemble à la peinture, ou ça se rapproche de l'art qui est l'art roi qui serait la peinture. La faible profondeur de champ donc va peut produire un effet de réel au sens bartésien. On va focaliser sur un élément supplémentaire, apparemment contingent, le ou les quelques détails qui font vrai. Ça permet aussi d'intimiser le réel, une intimité différente de celle qui peut se produire dans la perception. L'attention à un objet, la durée, la fréquence de la visite, de l'investigation créent aussi un lien entre le percevant et le perçu. Mais ici, l'intimité présente une étrange familiarité. Étrange puisqu'elle n'implique pas celui à qui elle se montre, mais rapporte la scène au photographe. Le flou d'arrière-plan, en effet, isole l'objet et crée une sorte de cocon de visibilité qui abrite l'objet et l'opérateur qui apparaît en creux. Invisible, il participe cependant à la présentation du visible. Le rapport flou-net en photographie manifeste sans le donner à voir le corps du photographe, sa situation dans l'espace, son intérêt et par là son désir. Tandis que la perception est la perception du spectateur, alors que en photographie, le flou d'arrière-plan va impliquer le corps du photographe et non pas le corps du spectateur. Inversement, la grande profondeur de champ produit une photo totalement nette, non réaliste pour cette raison justement, non réaliste par excès de réalisme. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de faire surgir un ou plusieurs éléments, des détails, mais les détails prolifèrent. D'ailleurs, peut-on encore parler de détails quand tout a une égale netteté? Dans la perception, ce qui n'a pas d'importance n'est pas aperçu. La perception focalise, où les vues d'ensemble impliquent un renoncement à l'attention aux détails. La perception présente simultanément ce que l'on ne peut voir que successivement. En photographie, pardon, le fait de tout voir d'un coup, ça présente simultanément ce qui n'apparaît que successivement dans la perception. L'hypernetteté ici dispense de s'approcher. Donc, je ne peux pas aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a d'autre, mais finalement, beaucoup trop d'éléments se sont donnés que je ne pourrais pas espérer percevoir normalement. La photographie est en effet une technique qui permet de rendre visible ce que l'œil ne peut pas voir à cette distance. La grande profondeur de champ peut ainsi servir d'inventaire, comme dans les photos de Gursky ou alors les photographies de Bernd Elia Becher, qui font des séries de photographies qui vont présenter de manière très, très nette, de manière frontale, des grandes structures industrielles, par exemple des châteaux d'eau ou des cheminées d'usine. La netteté ici peut avoir un sens politique, hein, ne rien cacher, comme dans les photographies, certaines photographies de Salgado. Ou alors, l'hypernetteté de la grande profondeur de champ peut avoir une valeur obscène, comme dans les courants néo-pop, notamment chez David LaChapelle, où les photographies finalement flirtent avec la pornographie. Où là, nous avons ici une photographie qui flatte le désir de tout voir, de tout montrer, ce que ne peut pas faire la perception. Ainsi, voir en photographie n'est pas percevoir. En photographie, il n'est pas possible de faire le tour des objets. Certes, le spectateur ne peut pas se mouvoir et faire varier les perspectives sur elle, mais il s'agit d'une impuissance subie. Voir en photographie, c'est être tenu à distance devant ce qui se passe et m'apparaît, sans que ce soit mon approche qui déploie ce qui est à voir. Voilà pourquoi il n'y a pas à proprement parler d'horizon interne en photographie. Mais voir en photographie n'est pas non plus regarder une image. La profondeur de champ est visible en photographie par la distinction entre la zone de netteté et le degré de flou de ce qui est au-delà d'elle. Le flou de profondeur de champ n'est pas l'équivalent du fond en peinture. Dans une image, le fond permet souvent de mettre en évidence une forme, un objet, alors que le flou est vu comme une présence de ce qui est visible sans pouvoir être vu. En photographie, il y a une profondeur de champ et non un décor. Le décor, c'est un ensemble d'éléments, alors que le flou de profondeur de champ est un milieu environnant qui crée une zone. Dans un deuxième moment, ce que j'aimerais montrer, plutôt l'hypothèse que j'essaye d'esquisser, serait de montrer que la photographie, le hors-champ et la profondeur de champ ne sont pas des horizons internes, externes et internes, mais ont en commun avec l'horizon d'être ouvert, et peut-être plus encore en photographie, comme si la photographie ouvrait l'horizon, ce qui distingue le voir en photographie de regarder une image. L'horizon perspectif, d'une certaine mesure, peut être considéré comme plus fermé que le hors-champ ou la profondeur de champ. dans l'horizon perceptif, l'inconnu est toujours rapporté au connu qui l'accueille et le fixe. Je cite Husserl dans les idées directrices, au paragraphe 63, tout inconnu est ainsi l'horizon du connu. La visée anticipe toujours sur ce qu'elle n'a pas encore vu et qui de ce fait est prévisible. L'horizon n'ouvre donc pas tant ce qui est vu sur le non-vu qu'il inscrit par avance ce qui n'est pas encore vu dans le déjà-vu. L'horizon serait ainsi ce par quoi le non-vu est essentiellement prévu et prévisible. Alors, en effet, la donation par esquisse fait que l'objet est perçu de manière inadéquate à travers une série de perspectives, mais ce qui unifie ces perspectives, c'est que la donation adéquate exigerait un continuum infini d'apparence, un cours indéfini d'esquisse qui renverrait à une idée au sens kantien. L'objet visé est visé en idée. Alors cette chose en idée permet à la fois de montrer que la chose est absente d'une certaine mesure aux esquisses qui ne sont que partielles. La chose reste non perçue car elle correspond à un cours infini d'apparence, mais en même temps, cette présence de la chose en idée fait que ces esquisses seraient bien des idées de la chose. Ça serait bien des esquisses de cette chose même. Mais ne reconduirait-on pas encore avec cette idée une sorte d'extériorité entre l'esquisse et l'esquissé? La chose perçue est bien la chose même, mais pas toute la chose. L'esquissé est une idée, l'absence l'emporte sur la présence. La dualité de la matière et de la forme, de l'esquisse et de l'idée, ferait encore de l'esquisse une représentation, qui impliquerait une extériorité entre l'image et la chose. L'esquisse ici serait l'équivalent de l'image. Or, la profondeur de champ et le hors-champ, ce que j'aimerais montrer, libère la vision de la visée de la chose ou des choses qui orientent l'horizon dans la perception. Elles ouvrent le visible sur un monde. Et en effet, pour Husserl, le monde aussi est un horizon. Il fait du monde l'horizon des horizons. Ainsi, par-delà les horizons externes et internes, le monde a pour rôle d'unifier les horizons multiples et empêche que la perception ne s'éparpille en une diversité de perspectives. Je cite « Expérience et jugement », donc à la page 38, « Mais il y a toujours quelque chose qui leur est commun. Tous les objets réels qui sont à chaque fois anticipés ensemble ou codonnés à la conscience en arrière-plan, comme horizon externe, sont pour la conscience des objets réels, appartenant au monde, comme étant dans l'unique horizon spatio-temporel. » Voir quelque chose en photographie serait ainsi la voir avec le monde pour seul horizon, et non plus telle ou telle chose dont on se ferait une idée. C'est comme si ce qui se montre en photographie, finalement, se rapporterait immédiatement à l'horizon monde en sautant, pour ainsi dire, l'intermédiaire que seraient les horizons externes et les horizons internes. Le hors-champ de la photographie de paysage, par exemple, n'est pas telle ou telle vallée derrière la montagne qui est montrée en photographie. Derrière cette montagne, il y aurait telle vallée. Je pourrais imaginer aussi avoir l'idée d'une autre montagne, et enfin l'idée de la plaine. Mais en fait, non, le hors-champ de la photographie, eh bien, c'est l'unité indéterminée et ouverte du monde. Tout un monde lointain, lointain car appartenant au passé. De même, la profondeur de champ ne consiste pas dans les aspects cachés de telle ou telle chose, comme dans l'horizon interne de la perception, les aspects cachés de telle ou telle chose qui apparaît dans la photographie. La profondeur de champ, bien plutôt, ouvre une zone. Ce que j'appelle zone, c'est un espace d'indétermination sans frontières, aux limites mouvantes. Car cet espace est ouvert sur le monde. La zone n'est pas un lieu, mais un espace ouvert par une errance. Alors, dans ma thèse, je vais essayer de montrer ce que c'est qu'une errance. Donc, c'est un espace, justement, qui est à la fois parcouru par le photographe et le spectateur de la photographie. Eh bien, cette zone, eh bien, est ouverte sur le monde, à la différence de l'idée qui, pour ainsi dire, ferme les horizons internes et externes. Voilà mon hypothèse, mais c'est un chantier, en fait.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Pour cette analyse très, très précise et très structurée et en même temps, évidemment, vous ouvrez, comme vous disiez, un chantier, mais c'est plus organisé qu'un chantier quand même, là, je trouve, et d'une part, beaucoup plus organisé. Et par ailleurs, à mon sens, vous ouvrez plutôt un champ d'exploration et de recherche sur un objet qui finalement a été peu traité par les phénoménologues. Donc au moins, après, vous avez d'autres références qui vont vous permettre d'aborder concrètement et plus techniquement, évidemment, le sujet tel que vous l'avez déjà présenté. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de construire un objet et de le décrire avec des outils qui sont les outils de la phénoménologie. Donc il y a une sorte de co-renouvellement, je dirais, à la fois de la phénoménologie et peut-être, on peut l'espérer aussi, de l'expérience de la perception photographique, on va dire ça comme ça. Donc il y a un double apport qui, méthodologiquement, je trouve extrêmement intéressant, renouvelant pour la recherche non seulement phénoménologique, mais aussi de votre intérêt pour la photographie. On a perdu votre caméra pratiquement au début, donc je ne sais pas si vous voulez revenir avec nous en visuel.
Oui.
Mais ça s'est déconnecté tout seul, je n'ai pas voulu vous interrompre parce que je me suis dit que vous étiez lancé et que ce n'était peut-être pas adapté.
J'essaie de la remettre, c'est vrai que ça m'avait échappé.
Elle est partie toute seule, enfin il y a peut-être eu une fausse manip. Voilà, vous êtes à nouveau avec nous, c'est très bien. C'est comme ça, on vous voit, enfin on a une petite photographie de vous. Autrement, c'est cohérent avec votre sujet. Et on voit mieux le hors-champ et la profondeur de champ, même en vous écoutant. Enfin, là, maintenant, immédiatement. Donc merci pour la finesse de votre présentation, de votre analyse aussi. Moi, j'avais une question concernant... C'est une thématique que vous avez abordée latéralement. Mais je me demande quelle importance elle a pour votre travail ou comment vous avez envie de l'investir ou pas. À travers le différentiel que vous avez opéré, donc à travers ces expériences à la fois techniques et perceptives, hein, du hors-champ et de la profondeur de champ, et comment vous avez très bien montré à la fois le lien et la différence avec l'expérience perceptive et les horizons. Enfin, je trouve que c'est très convaincant. Je voyais apparaître une autre thématique qui court un peu dans votre propos. Et je me demandais quelle influence elle avait ou quel rôle vous voulez lui donner, qui concerne peut-être une distinction ou une opposition, je ne sais pas, entre quelque chose qui dans le hors-champ relève d'une contrainte qui est celle du photographe, enfin qui va prescrire finalement la vision au spectateur, et vous l'avez dit vous-même, hein, qui crée du coup une non-liberté perceptive puisque la limite, justement, met en jeu précisément cette contrainte, cette délimitation. Et au contraire, j'avais l'impression que quand il est question de la profondeur de champ, on a une sorte d'ouverture et de liberté du spectateur, qui est donnée évidemment à nouveau, prescrite par le photographe, toujours, mais qui lui, d'un côté, le photographe donne de la non-liberté, de l'autre côté, il donne de la liberté. Je me demandais comment. Donc il y a une autre question qui serait évidemment, quel est ce sujet photographe qui donc a une sorte de toute-puissance et qui est capable de prescrire d'un côté de la liberté, de l'autre côté de la non-liberté à son spectateur. Enfin, quel type de rôle et d'interaction ça met en scène, enfin, à travers donc la relation entre les deux, d'une part, et d'autre part, finalement, cette relation à la liberté et à la non-liberté qui est prescrite par le photographe, et qui nous situe sur un plan qui est plus seulement le plan de la perception, même si c'est lié, mais qui est plus qui resitue les choses sur un terrain qui est aussi le terrain alors d'une forme d'éthique ou de politique, peut-être même aussi. Qu'est-ce que c'est que cette construction, cette fabrication finalement de la perception qui est imposée au spectateur? Quel est l'espace de marge de manœuvre que le spectateur a par rapport à ces contraintes qui lui sont proposées et qu'il, d'une certaine manière, imposées aussi? Enfin voilà, c'est des questions autour de. Je me demandais que vous avez aussi évoqué à plusieurs reprises des notions qui sont plus des notions de type morale ou dans le champ de la morale, disons, autour de la question du désir, de la curiosité. Vous voyez, on était aussi dans ces aspects-là. Et donc, je me demandais quelle part vous comptiez donner à ces dimensions. Donc, j'ai bien conscience que je suis peut-être moi-même un peu hors champ, je ne sais pas, par rapport à la délimitation de votre propos. Mais voilà, je me demandais quelle part pouvait aller occuper ou pourrait occuper ces questions dans la. Comment dire, dans la. Évidemment, dans la modification de la perception que l'expérience photographique fait apparaître, et que j'ai trouvé très intéressante, hein, comment la photographie le sujet de la photographie, sa réception par le spectateur a des effets d'altération de la perception ou de transformation de notre expérience perceptive. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc je me demande jusqu'où, enfin voilà, comment est-ce que jusqu'où vous pensez aller dans cette perspective?
Donc, tout le monde m'entend ou mon micro fonctionne?
On vous entend très bien.
Merci. J'ai noté deux questions.
Deux questions.
Alors, à la première, je pourrais répondre. La deuxième, en ce qui concerne donc une réflexion sur l'implication éthique et politique ou morale qui se produit dans le rapport entre le photographe et le spectateur, c'est une piste intéressante, mais je n'y ai pas encore réfléchi. C'est très bien de m'ouvrir des perspectives. En revanche, je vais essayer de répondre à la première. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une dissymétrie entre le hors-champ et la profondeur de champ, en ce sens où la profondeur de champ offrirait une liberté au spectateur que refuserait le hors-champ. Je ne pense pas qu'il faille ainsi comprendre la limite du hors-champ comme une clôture. Cette impossibilité que j'ai d'aller voir ce qu'il y a au-delà n'est pas une fermeture. C'est que, comment apparaît un hors-champ? Un hors-champ apparaît justement par le fait que ce qui se trouve dans l'image, dans la photographie, a tendance à s'échapper hors d'elle. Dire qu'il y a un hors-champ, c'est voir que ce qui apparaît est en train de s'éloigner, de s'échapper au-delà. Alors que dans une image, le cadre clos et renferme et va donner une harmonie, une composition. Une image est plus ou moins bien composée, alors que le hors-champ empêche d'utiliser le concept de composition pour décrire ce que l'on voit en photographie. Même si par ailleurs, on peut regarder une photographie comme si c'était une image. Mais ce que je cherche à montrer dans ma thèse, c'est la spécificité d'un voir proprement photographique. Voir en photographie, c'est pas se représenter comme une image. Et voir en photographie, c'est justement voir le mouvement d'éloignement de ce qui se montre. Et en cela, le hors-champ est aussi ouvert que la profondeur de champ. Alors l'ouverture de la profondeur de champ, on peut l'appeler à proprement parler la zone, c'est-à-dire la teneur de l'espace même, la présence spatiale de ce que l'on voit en photographie. Le hors-champ va montrer l'éloignement de ce qui se présente en photographie. Et cet éloignement, il est avant tout temporel. Cet échappement de ce photographie est précisément ce qui va révéler l'appartenance de ce qui est vu en photographie à un temps révolu. Ce n'est pas mon présent. Cette photographie que je vois, n'a pas été, ne m'est pas montrée à moi. Elle se montre à l'objectif, un photographe, l'opérateur, voire même à personne, si c'est une photographie qui a été prise automatiquement. L'ouverture du hors-champ, cet échappement, eh bien, c'est ce par quoi on peut voir que en photographie, ce qui se présente, c'est du passé.
D'accord. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points que vous voudriez, sur lesquels vous voudriez prendre la parole, les uns ou les autres? Oui, Alex?
J'entends très mal.
Oui, on entend assez mal, il y a un gros écho, enfin une grosse, je ne sais pas très bien. Est-ce que tu pourrais mettre le nom du photographe que tu as évoqué Le titre, on a entendu La disparition des Lucioles, mais le nom du photographe, on
De
l'a.
Roche.
Attends, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit là. Attends, je mets le nom du philosophe que tu as évoqué parce que ça, je connais. Donc, François Laruelle, la non-photographie. C'est un titre d'ouvrage ou c'est un concept qu'il utilise, Alex? Un titre, c'est ça, c'est ce que je pensais. D'accord, merci pour ces apports. Parfait.
Alors justement, à propos de Denis Roche, c'est un photographe qui permet vraiment de comprendre ce que c'est que le hors-champ. C'est peut-être même l'un des principaux objets d'étude, notamment dans ses séries, où il met le retardataire, le retardateur, donc où ce qui est pris en photo, c'est l'aller et retour du photographe devant et derrière l'objectif. Notamment ces photos prises au Mexique avec son épouse, où pour faire des photos de couple, et où parfois le retardateur ne lui laisse pas assez de temps pour arriver au point d'être photographié. Et donc on le perçoit à moitié ou en chemin. Ou pas du tout. Et justement, en photographie, le hors-champ est ouvert sur le champ. Il n'y a pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la photographie. Et certaines photographies essayent de le masquer au maximum en essayant de ressembler à des tableaux, en cadrant bien justement la technique photographique finalement empreinte à l'art pictural, en valorisant, peut-être même en survalorisant la composition, alors que finalement la spécificité de la photographie, elle tient peut-être sans doute principalement au hors-champ, au fait qu'il n'y a pas de clôture de ce qui est montré sur ce qu'il y a au-delà.
Merci, merci, c'est très intéressant. Moi, j'attends de lire la suite de votre travail, qui est vraiment novateur, je trouve, et en même temps extrêmement précis dans votre recherche. Donc, merci beaucoup, Jean-Luc. On va devoir s'arrêter là.